confrère, mes bien chers frères, saint Matthieu a tendance à dépouiller au maximum ses récits évangéliques pour aller à l'essentiel. Justement, dans le passage qui nous concerne aujourd'hui, dès le début, notre évangéliste ne prend même pas soin de nous préciser vers quelle ville Jésus se dirige. Il traverse la mer de Galilée et se dirige vers sa ville, nous dit-il. Cette ville qui serait la sienne? Serait-ce Bethléem, lieu où il est né, Nazareth, la ville où il a grandi et où il a passé 30 ans de sa vie cachée? Ou bien serait-ce Jérusalem, la ville de son martyr et de sa mort? Finalement, ce sont les autres évangélistes qui nous aident, et notamment saint Marc, qui raconte cet épisode aussi du paralytique, et qui précise au début que Jésus arrive à Capharnaüm pour effectuer ce miracle. À entendre saint Luc, Capharnaüm est donc la ville du Christ, et il rentre donc ici dans sa ville. C'est en Galilée que Jésus a passé une grande partie de son ministère à enseigner et à guérir. Un certain nombre de villes populeuses et florissantes entouraient la mer de Galilée, et Jésus va faire de Capharnaüm l'une de ces villes, une ville de pêcheurs et un poste frontière aussi sur la voie romaine allant d'Égypte à Damas. Il va faire de cette ville passante et centrale son quartier général. C'est de là, en Galilée, qu'il va débuter son ministère et d'où va rayonner son apostolat. Capharnaüm est à l'époque un carrefour commercial où vivent des pêcheurs, des cultivateurs, des marchands, des artisans, majoritairement juifs. C'est là qu'il va choisir ses premiers disciples, Simon et André, qui sont frères, qui sont pêcheurs, Jacques et Jean, qui sont aussi frères et pêcheurs, ainsi que saint Matthieu. Jésus va ici prêcher l'évangile et faire des miracles. Il chasse des démons, remet sur pied la belle-mère de Saint-Pierre, ressuscite la fille du chef de la synagogue, et bien d'autres encore. Du coup, la nouvelle va se répandre assez vite, et on lui amène alors beaucoup de malades, ou des malades à guérir, ou des pauvres à réconforter. Si bien que Capharnaüm, de petite bourgade, devient un lieu de pèlerinage, en quelque sorte, et la maison où réside Jésus devient quasiment inaccessible devant la foule qui se presse pour l'écouter, pour le voir. En hébreu, Képhar signifie le village, et Naum, la compassion ou la consolation. Quand on réalise que le Christ en a fait sa ville, cela en dit long sur son désir de venir chercher ceux qui sont perdus ou attristés. Mais Capharnaüm est utilisé aussi pour désigner le désordre ou le fouillis. Et justement, cette ville, par cette foule hétéroclite qui vient de tout Israël, devient de plus en plus sale, difficilement accessible et quasiment impraticable, au point qu'elle mérite d'être désignée par le désordre. Et oui, le Christ ne veut pas aller chercher les bien portants, et d'ailleurs il va le proclamer lui-même, lorsque les pharisiens s'offusqueront de ce qu'ils dînent avec des pécheurs. « Ce ne sont pas des bien portants qui ont besoin de médecins, mais les pécheurs, » dira-t-il. « En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Le Christ n'attend qu'une chose, c'est se pencher sur nos misères et nos péchés pour les pardonner, à condition évidemment que l'on daigne passer au-dessus de notre amour propre et notre orgueil en se jetant avec confiance dans ses bras de Père. Et justement, revenons à notre foule, cette foule compacte qui obstrue l'entrée de la maison où se trouve Jésus. Revenons-y, car certains sont pressés d'y rentrer, et comme ils n'y parviennent pas, ils décident de passer par le toit. Ils ont la foi, pourrait-on dire. Et oui, ils ont la foi, car celui qu'ils portent est paralysé, et la confiance et la foi qui les animent les fait enlever les tuiles et apporter ce paralytique aux pieds du Christ. Pour nous aussi, accéder au Christ pour lui présenter notre état misérable, accéder au Christ demande parfois beaucoup de foi et de courage. Pour venir s'agenouiller aux pieds d'un prêtre qui tient la place du Christ, cela demande parfois un vrai combat, un combat spirituel, un combat psychologique, lutter contre mon amour propre, mon ego, contre le respect humain et ma honte de redire pour la énième fois tel ou tel péché. Mais le prêtre, que va-t-il penser de moi ? Toujours donc une bonne raison de repousser une confession. Et pourtant, le Christ, pourtant, nous attend toujours. Et écoutons d'ailleurs sa première parole lorsqu'il voit et réalise la foi de ces hommes qui sont passés par le toit. « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. » Le cœur du Christ se laisse toucher par tant de confiance et de détermination. Dans sa miséricorde infinie, il daigne guérir l'âme de cet enfant qu'on lui présente. Il se laisse toucher aussi par ceux qui portent, et il le dit dès le début de l'Évangile, voyant leur foi, les porteurs de ce brancard. Par les prières donc pour notre prochain, pour nos prochains, nous pouvons obtenir beaucoup de conversions, souvent invisibles, des grâces de conversion intérieure de ceux qui acceptent de se laisser toucher par la grâce de Dieu dans le sacrement de confession. C'est cela la communion des saints. Prions les uns pour les autres, à l'image de ces hommes qui, vaillamment, n'ont pas peur de monter sur le toit pour apporter l'un des leurs aux pieds du Christ. C'est en s'entraînant les uns les autres dans ce lien de la grâce qui nous relie que nous serons plus forts pour avancer vers le Christ. Le paralytique se trouve guéri donc dans son âme, c'est un miracle, comme d'ailleurs chaque fois que nous ressortons du confessionnal. Et pour nous le prouver, le Christ opère deux autres miracles. Il dévoile les pensées mauvaises des pharisiens, c'est le deuxième. Et enfin, jamais 203, il guérit le corps du paralytique. Il le remet sur pied. Et attention, une remise sur pied peut en cacher une autre. Remarquons que l'épisode qui suit cet épisode du paralytique, c'est l'appel de saint Matthieu. Et cet épisode se termine par cette admirable parole, et se levant, il le suivit. Sur un fameux tableau du Caravage, représentant cet appel, cette vocation de saint Matthieu, on aperçoit notre homme, notre évangéliste, assis à une table en train de compter son argent. Quand le Christ apparaît et l'interpelle, il semble qu'il faudrait un miracle pour qu'il se lève. L'argent le retient, il est comme bloqué sur son banc, il est possédé par ce qu'il possède et il est comme paralysé. Ce n'est donc pas un hasard si ce récit de la vocation de saint Matthieu, qu'il a lui-même composé, se situe juste après le récit de la guérison du paralytique. Comme notre paralytique d'aujourd'hui, captivé par le regard de Jésus, Matthieu a finalement réussi à se lever et à marcher à la suite du Messie. Voilà un beau parallèle que saint Matthieu confie à notre méditation. Puisse-t-elle nourrir notre prière en ce dimanche, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.